Libre Radio, la radio avec un grand A, blanc sur fond noir.
On se retrouve aujourd'hui pour un CLS un peu particulier parce qu'on ne le fait pas depuis l'usine, mais depuis la maison de Igor. Et qu'on n'est pas nombreux parce qu'aujourd'hui on n'est que deux, il y a Igor et Stikmou.
Yes, carrément.
Stikmou, c'est une voix que vous connaissez peut-être, mais que vous allez avoir l'occasion de redécouvrir. Voilà. Et cette semaine, au CLS, de quoi on parle ? On parle du mouvement Provo. Le mouvement Provo, c'est un truc que moi, personnellement, j'ai découvert en regardant la super saga de films de Tancred Ramonet sur l'histoire de l'anarchie, ils en parlent. Et je vais vous faire une brève introduction qui est tirée de Wikipédia. Alors, le mouvement Provo, c'est un groupe contestataire et libertaire ayant animé la vie sociopolitique et ayant animé la vie politico-sociale des Pays-Bas dans les années 65 à 70. 1965 à 1970, se réclamant écologique, anti-monarchiste et anti-impérialiste. Pour l'historien Patrick Rothman, le terme Provo vient de provocateur. Il s'agit d'un mouvement politique qui secoura la société hollandaise bien policée du milieu des années 1960. Le mouvement se réclame de l'anarchisme et du mouvement Cobra, qui est un mouvement artistique, politisé, par l'intermédiaire du peintre Constant Neuenvershuijg. Loin du schéma de la lutte des classes, selon Provo, un premier groupe est formé du peuple consommateur et un deuxième porte en lui les germes de la révolte, le provotariat, étudiants, artistes, beatniks, marginaux. Les provos prêchent le rejet des disciplines et des hiérarchies de la société industrielle, de l'Est comme de l'Ouest, au profit d'une société dite ludique, où les virtualités créatrices de chacun pourraient s'exercer dans une sorte de révolution permanente dans le jeu qui relèguerait au second plan les cloisonnements imposés par la division du travail. Le mouvement recourt à l'image et aux médias selon l'adage « Provo est une image » et la méthode du cycle provocation-répression-mobilisation. Provoquer et mystifier n'ont qu'un seul but, éveiller la conscience des gens. Les graffitis, des tracts, des happenings sont des moyens privilégiés pour diffuser leurs idées. Pour un bref historique, les provos, c'est d'abord un réseau informel qui naît en 1965. Et si le mouvement est d'abord basé à Amsterdam, dès 1966, il essaime dans une vingtaine de villes, tant aux Pays-Bas qu'en Belgique. Cela représente une centaine de personnes qui se reconnaissent dans le mouvement. Les thèmes abordés sont la guerre du Vietnam, la lutte du tiers-monde, la liberté sexuelle ou encore la monarchie néerlandaise visée par des bombes fumigènes sur le cortège nuptial de la princesse Béatrix et de Klaus von Habsburg le 10 mars 1965 ou 66. C'est ensuite un mouvement qui s'institutionnalise dès l'été 1966 aux élections municipales d'Amsterdam. Les provos obtiennent un siège au conseil, occupé par Bernard de Vries, et en mai 1967, le mouvement se dissout après un gigantesque happening dans le Vondelpark d'Amsterdam. Le mouvement a inspiré à la fois la contre-culture européenne et américaine et le courant militant de mai 68, les étudiants de Milan et de Prague. À noter tout de même une critique émanant de l'International Situationniste, qui est une organisation de théoriciens et de stratèges de la Révolution, qui, eux, considèrent le mouvement Provo en ces termes. Dès la formation de leur organisation, les deux tendances sont restées distinctes. La masse théorique s'est trouvée d'emblée sous la tutelle d'une mince couche de dirigeants suspects qui essayaient de maintenir leur « pouvoir » entre guillemets par la sécrétion d'une idéologie provotarienne. Voilà ce qu'en dit l'International Situationniste du mouvement Provo. Et on va tout de suite commencer par un texte d'introduction dont je vais vous faire part, lecture, qui est un article paru le 30 juin 1966 dans le journal Combat, qui est l'organe du mouvement de libération français, mouvement de libération nationale, bon, organe éminemment de gauche révolutionnaire. L'article se nomme « Socialisme ou barbarie ». Et je vais vous faire une lecture partielle seulement, parce que sinon il est long et il ne traite pas que des provos, alors que c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, les jeunes devenus puissances économiques ont été gangrénés par ces idéologues de bazar qui ne cessent sans la presse et sur les ondes de les flatter pour mieux leur imposer leur mot d'ordre, faites du bruit et consomme. Il est aussi normal que des millions de jeunes soumis à ce traitement de choc mais qui ne disposent pas des moyens financiers, qui demeurent le privilège d'une minorité aisée, éprouvent avec force révolte et ressentiment. Quotidiennement sollicités, ils ne peuvent piétiner que sur les franges du mythe collectif. Dans une société de plus en plus saisie par les ordinateurs, les plans, les chiffres, les schémas de rentabilité, la frénésie de la sous-consommation, rêve souvent différé. C'est pourquoi, sans pour autant justifier des violences qui ne peuvent être fertiles, il est impossible de condamner les provos. Les condamner serait justifier la société dont ils sont les produits. Ils mettent par leur existence même cette société en accusation. Ils font la preuve que cette société est condamnable. On me dira que l'Occident bourgeois n'a pas le privilège de cette sorte de rébellion, qu'à Prague, Budapest, à Moscou, les provos existent aussi. C'est normal au regard de ce qu'est devenue l'aventure entamée en 1917. L'absolu n'a pas triomphé sur la terre. Les démocraties socialistes sont loin d'avoir résolu les problèmes qui se posent à l'homme. Mais seuls les esprits superficiels pourraient conclure que les principes qui ont été à la base de ce combat sont devenus anachroniques, sont dorénavant voués à l'oubli. Le stalinisme a porté un coup terrible à l'espoir des hommes, mais il n'empêche que les jeunes de l'Est ne réclament pas la restauration du vieux monde. Ce qu'ils accusent, c'est le monde nouveau, qui ressemble encore au vieux monde. Ce qu'ils condamnent, c'est la gérontocratie communiste. Ce qui vient de se passer à Amsterdam peut se passer demain à Londres, à Bruxelles, à Paris. Pour ce qui est de notre pays, l'événement constitue un sérieux avertissement à tous les fonctionnaires et bureaucrates de la gauche, à tous les vieillards de la politique réfugiés derrière les enseignes du progrès. Qu'ils craignent de voir demain les jeunes Français descendre dans la rue, hurlant leur dégoût, leur refus d'un jeu qui ne les concerne pas, leur mépris pour ceux qui font carrière avec les misères et les espérances des autres. Amsterdam prouve une fois de plus que le choix qui s'impose et s'imposera à mesure que la crise de notre société grandira, apportant son cortège de névrose, de frustration, peut s'exprimer en une sèche formule, socialisme ou barbarie. J'ai le texte du journal Combat et je tiens à souligner ce terme dont je ne connaissais pas l'existence, de la gérontocratie communiste. Je trouve particulièrement poétique. Je te remercie de l'avoir trouvé.
Pas mal, non ?
Pas mal, ouais, pas joli. Mal.
Du coup, Stickmou, je vais te passer la parole.
Avec plaisir.
Pour lire ce petit encart, alors je me permets de l'introduire parce qu'il s'avère que L'Impartial, c'est un journal qui est distribué partout à Neuchâtel, mais qui a été écrit jusqu'à récemment au sein d'une rédaction qui est à La Chaux-de-Fonds.
Yes.
À La Chaux-de-Fonds, ma ville natale, voilà. Et qui date du 15 novembre, de la même année 66. Je te passe la parole, Stéphane.
Avec plaisir, merci Igor. Alors, du coup, cet article, donc le titre se nomme « Les provos à la recherche de la place de l'homme libre dans la société future ». Le Concile international provos, qui se tient depuis samedi au château de Borgaren, près de Maastricht, après une journée de travaux en séance plénière et un après-midi de conclave, d'où tout observateur de la presse a été exclu, ou abouti à un certain nombre de conclusions. Parmi celles-ci figure la création du mouvement international provos, Provo Mundi. D'autre part, la scission entre Provo modéré et Provo dur, le Conseil révolutionnaire terroriste, entre guillemets, n'est apparente, car, comme le précisent les leaders Provo des deux tendances, les durs et les non-violents ne constituent en fait que deux ailes d'un mouvement unique qui vise le même but, le renversement de l'ordre établi en faveur d'un ordre nouveau dans lequel le problème de la place de l'individu libre dans la société mécanisée, automatisée et conduite par des cerveaux électroniques, qui est la société de demain, sera donc résolue de façon acceptable. Voilà pour cet article. Donc,
merci pour la lecture, Stickmou. On passe à un troisième article, et l'avant-dernier, qui est alors ça c'est moi qui l'ai trouvé et ça m'a fait marrer, alors je vais vous en lire un extrait, et il s'avère que c'est tiré d'un journal qui s'appelle En Avant, qui est le journal hebdomadaire de l'Armée du Salut. Voilà, Et c'est un article qui se nomme Les beatniks ou la jeunesse révoltée, où il parle de comment ça se fait que les jeunes se révoltent, qui a trahi qui, comment ça se fait, enfin voilà. Et je voulais juste un petit encart, parce qu'il cite les provos. Derrière ce mouvement d'antiterrorisme destructeur se profile un idéal impératif que nous n'avons que trop tendance à ignorer, parce qu'il nous dérange. Le beatnik se dresse en effet contre le conformisme, contre une société qui contingente bon nombre de libertés, mais ne condamne ni la bombe atomique, ni l'abrutissement collectif. C'est ainsi que les provos de Hollande ont réussi à influer sur les autorités du pays, à faire révoquer le bourgmestre d'Amsterdam, et les élections de 1971 verront certainement se concrétiser leurs efforts. C'est pourquoi le beatnik est bien autre chose qu'une fantaisie vestimentaire et musicale superficielle. Et c'est son souffle et son cri d'alarme que nous entendons aussi à travers le surréalisme de l'artiste breton, les films de James Dean ou le saxophone de Charlie Parker. Voilà, l'article continue encore sur une colonne et demie et est écrit par Françoise Vie. Et vous pouvez retrouver cet article dans les archives du bulletin hebdomadaire de l'Armée du Salut. Et cet article date du 11 novembre 1967. Comme quoi, même à l'Armée du Salut, on peut saluer l'engagement. Ouais. Voilà. Donc, c'était l'avant-dernier article pour aujourd'hui. Et puis, on va finir sur le dernier, qui est chronologiquement le dernier, parce qu'il a été publié le 3 avril 1968 par le journal Construire. Et peut-être qu'on aurait pu le mettre au début, mais bon, on a décidé de faire les trucs de manière chronologique. Mais il revient beaucoup sur qui sont les provos. Et je repasse la parole à Stikmo pour ce dernier article.
Merci, Igor. Alors, qui sont les provos? Il y a quelques années, les journaux signalaient l'apparition à Amsterdam de rassemblements épisodiques de jeunes adultes, les provos. Cheveux longs, dégaines négligées, voire sales, ils protestent contre la bombe atomique, contre la guerre du Vietnam, contre le mariage de la princesse héritière avec un Allemand, contre le travail régulier, contre les lois, contre toutes les traditions. Ils étaient pour la liberté totale. Leurs insignes étaient aussi fantaisistes que leur idéologie. Une pomme marquée d'un point ou des slogans tels que « liberté sexuelle ». Comme toujours, certains reporters ont trouvé dans ce phénomène matière à des articles à sensation. Mais qu'en est-il en réalité? Le Centre belge d'études de la délinquance juvénile, qui publie chaque année une monographie sur des aspects de l'inadaptation sociale des jeunes, vient de consacrer celle de 1968 aux provos et aux provotariat. Comme toujours, l'étude objective d'un tel phénomène diffère sensiblement des reportages à but commercial. Il faut préciser que le provotariat ne s'est pas cantonné à Amsterdam, mais qu'il s'est répandu dans les pays environnants, en Angleterre. Il a reçu le nom, par exemple, de beatniks. Le terme de mouvement est inadéquat pour définir ce phénomène psychosocial de jeunes adultes en colère, oppositionnels, protestataires, mais non violents, ce qui les différencie des blousons noirs dans les années 60. Les provos se veulent non-conformistes, libertaires, nihilistes. On pourrait ajouter anarchistes. Mais on ferait tort aux vrais anarchistes qui ont une doctrine de la société qui a eu son heure de notoriété au début du siècle. Les provos ne sont pas organisés et ne veulent pas l'être, car cela limiterait leur liberté. Quelques-uns sont des intellectuels, des étudiants en rupture d'études, du genre don quicotiste. La plupart des provos se complaisent dans l'oisiveté, dans la négligence vestimentaire, alimentaire et sanitaire, la promiscuité des sexes, le mépris de l'argent, la condamnation absolue de notre civilisation de production et de consommation à outrance. Ils méprisent les ouvriers qui entretiennent l'esclavage. De temps en temps, ils se rassemblent pour protester contre quelques-uns ou quelque chose, ce qui les met parfois en conflit avec la police. Adeptes de la non-violence, ils résistent en se couchant sur la place où ils manifestent, jusqu'à ce que la police les en déloge. Certes, il y a quelques côtés sympathiques dans cette protestation contre le matérialisme envahissant et étouffant. Cette conjugaison massive et organisée du verbe « avoir ». Mais si au moins il s'appliquait à conjuguer le verbe « être » en visant à former des personnalités animées, d'idéal et d'esprit de service. Que d'initiatives utiles il pourrait prendre en Europe et dans le tiers-monde, comme les camps du service civil les accueilleraient avec joie. Hélas, l'étude belge nous apprend que les provos sombrent dans la délinquance. Vagabondage, mendicité, toxicomanie, prostitution, délinquance. Leur refus de participer à notre civilisation moderne, au lieu de susciter des réformes, aboutit à l'inadaptation sociale. Comme le furent les blousons noirs, les provos sont en définitive des parasites, des cellules dégénérées d'un corps social qui lutte contre la maladie. Impuissants, encombrants, ridicules, ils passent déjà de mode, si l'on en croit la proclamation de sabordage qu'ils ont lancée il y a quelques mois à Amsterdam, après qu'un des leurs eût été élu au conseil communal. Les hippies prendront-ils la relève? Eux au moins protestent avec des fleurs. Mais des fleurs se fanent vite, et après, il n'y a plus rien. Pouvons-nous conclure que cette bande de farfelus mérite le mépris, à défaut de trique? Ce serait méconnaître qu'ils sont le produit de familles souvent médiocres ou dégénérées, ou à mentalité de petits bourgeois, aux idées étroites, attachées passionnément à l'argent. Il faut aussi reconnaître que notre société a grande peine à proposer aux jeunes des buts idéalistes, capables de provoquer leur enthousiasme. Voilà, donc, pour ce dernier article, signé VDCI.
Voilà, c'était le CLS d'aujourd'hui. Vous retrouvez toutes nos petites lectures sur les liens juste en dessous de l'écoute. Et on espère que ça vous a plu. Merci Stickmoo d'avoir donné de la voix.
Merci Igor.
Et à tout bientôt pour de nouvelles aventures.
À bientôt.